céleste consolateur.
Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure.
Ça vous a peut-être traversé pendant la prière ici, mais ce que nous faisons, nous ouvrons nos mains, nous ouvrons notre cœur, notre esprit à la nourriture que nous apporte l'Esprit Saint. Déjà, en faisant cette prière, c'est une application concrète de cette nourriture essentielle que nous demandons au Père de nous envoyer, et il nous envoie l'Esprit Saint. Je dis pour ceux qui n'étaient pas là ce matin que nous avons commencé la journée en communion avec toutes les victimes des attentats en France, et que je dirais qu'ils sont présents avec nous comme le Christ est présent avec nous maintenant. Et on ne peut pas se détacher du monde. Nous portons tout ce qui se passe de violent dans le monde, en nous et dans notre paroisse. Donc je pense que c'est important de le garder à l'esprit. Mais nous disions aussi tout à l'heure qu'il est essentiel dans un monde en proie à une telle violence absurde et meurtrière de pouvoir développer, approfondir des lieux comme celui-ci, où nous essayons à notre faible mesure de contrebalancer un peu la violence du monde. Parce que je me posais la question ce matin avant de commencer, quel sens est-ce que ça a d'aller, je sais quel sens ça a bien sûr, mais quel sens ça a d'aller parler du Notre Père, de le commenter, alors qu'il y a un tel drame que vivent des milliers de gens en France pour le moment. Donc voilà. Je pense que si nous, consciemment, nous sommes en communion avec eux, et nous les portons aussi dans notre prière. Je disais aussi, c'est un bref rappel, pour ceux qui n'étaient pas là le matin, que la demande que nous abordons aujourd'hui est une demande tout à fait centrale, ne fût-ce que sur le plan géographique de la prière. Elle est au centre de la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Et je vous le disais aussi qu'il y a plusieurs traductions, que ces traductions viennent de la difficulté de traduire un mot grec, arton epiousion, qui veut dire, on peut le traduire par pain de ce jour, ou pain jusqu'à demain, ou pain essentiel, ou pain sur-essentiel, epiousion, au-dessus de la nature, au-dessus de l'essence. Je ne redirai évidemment pas tout ce que j'ai dit ce matin, et peut-être j'épingle certaines choses importantes pour les avoir en nous. C'est que ce qui est au centre de cette demande, c'est le désir de communier, le désir de communion, non seulement avec la matière, la nature, mais bien entendu et surtout avec le Père, avec la divine Trinité. Et que la vie divine se communique à nous à travers les trois dimensions de notre être, c'est-à-dire la dimension corporelle, matérielle, la dimension psychique et la dimension spirituelle, notre esprit, esprit, âme, corps, corps, âme, esprit. Et que ces trois nourritures sont distinctes, mais elles sont reliées entre elles. Et nous pouvons simplement prendre une nourriture purement matérielle, corporelle, tout en rendant grâce à Dieu et directement nous relier au monde divin à travers la matière que nous absorbons, que nous assimilons dans la nourriture. Même chose pour l'émerveillement, les relations, l'art, tout ce qui constitue la nourriture de notre psychisme, c'est-à-dire de notre âme. Et bien entendu, la nourriture de notre esprit est profondément liée aussi au corps et à l'âme, et les trois niveaux communiques sont en interdépendance continuelle. On ne peut surtout pas séparer dans l'être humain les trois dimensions de son être. Alors, Jean, nous avons aussi envisagé le premier type de nourriture, qui était la nourriture corporelle et psychique, que j'appelais le pain terrestre ou la nourriture terrestre. Et maintenant, nous abordons la deuxième grande partie de ce partage, c'est le pain céleste. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel, suressentiel. Et je rappelle à nouveau que la nourriture du corps et de l'âme ne sont pas des nourritures inférieures à celles de l'esprit. On aurait tendance à le penser dans un premier abord, en disant, ben oui, il y a le corps, c'est ce qu'il peut, il y a l'âme qui flotte à côté, c'est déjà peut-être un petit peu plus relevé avec l'art, la musique, etc., l'émerveillement, et puis il y a l'esprit tout au-dessus. Et ça, c'est une vision, en fait, qui n'est pas du tout biblique. Parce que pour l'homme de la Bible, l'homme forme un tout. Nous sommes corps, âme, esprit, de manière indissociable, et tout est relié. Et rien, comme dit saint Paul, n'est indigne en nous. Aucune partie, même de notre corps, n'est indigne. Et donc, il semble important de redire que la nourriture du corps, de l'âme, ne sont pas des nourritures inférieures, dès lors que l'on a conscience que, d'abord, tout vient de Dieu. Tout, absolument tout. Et tout lui est relié. Deuxièmement, que la matière n'est pas, comme on pourrait le penser, inférieure à l'esprit. Nous allons en parler plus longuement tout à l'heure. Et la matière peut accueillir et contenir les énergies divines, les énergies incréées. Ce n'est pas rien. Troisièmement, que l'être humain, comme je viens de vous le dire, forme un tout indivisible corps, âme, esprit, dont les parties sont en interaction constante. Que les nourritures du corps et de l'âme ont donc des charges spirituelles, quand elles ne sont pas des fins en soi, mais qu'elles sont toujours reliées à Dieu. Qu'elles ne sont pas prises pour elles-mêmes, mais qu'elles sont reçues comme des dons de Dieu. Et qu'elles nous ouvrent ainsi à l'action de grâce, qui est le mot exact de Eucharistie, rendre grâce. Manger, boire, respirer, contempler la nature et la beauté en pleine conscience de ces dons reçus de Dieu, c'est d'être en pleine communion avec lui. Et donc le risque de rester, entre guillemets, au ras des pâquerettes, si nous parlons de la nourriture du corps et de l'âme, n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe que lorsqu'on a perdu la conscience de cette attitude filiale qui nous relie à Dieu, à travers la matière, notamment. Et aussi, lorsque nous avons perdu la capacité de nous émerveiller devant la magnificence de la création. L'homme ne vit pas seulement de pain matériel. Vous savez, vous connaissez cette phrase célèbre, qui apparaît non pas la première fois dans la bouche du Christ, mais dans le Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et le Christ précisera de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand je vous disais le risque de rester au ras des pâquerettes, si nous considérons ces jolies petites fleurs toutes modestes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la conscience de la magnificence du Créé, au ras des pâquerettes, nous louons Dieu. Nous ne sommes pas très bas au ras des pâquerettes, nous sommes déjà bien haut. Nous chantons « Comme un cerf altéré brame après les eaux vives, ainsi mon âme a soif. » Mon âme, traduisons ici, plutôt mon esprit. « Seigneur, mon âme soupire après tes ruisseaux, elle a soif du Dieu vivant. » Et je vous rappelais cette magnifique parole du psaume 63 que nous chantons chaque dimanche. « Ô Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. » Et donc l'homme ne vit pas seulement de pain matériel, quoique celui-ci ne soit pas, comme je vous l'ai dit, inférieur au pain spirituel. Sa soif, sa faim la plus profonde, sont spirituelles. Et l'esprit humain, l'esprit en nous, que nous ne connaissons pas toujours, et toute la vie spirituelle est faite pour éveiller notre esprit, pour d'abord le réveiller, parce que s'il n'est pas alimenté, il sommeille. Et Monseigneur Jean dira même, il meurt. L'esprit meurt, je n'irai pas jusque-là, je dirais qu'il est profondément endormi, comme Cendrillon, et il s'agit de le réveiller. Et donc, réveillons notre esprit et nourrissons-le Et nous pouvons le nourrir de trois façons. L'Église nous propose et la Bible nous propose trois nourritures profondes, spirituelles. D'abord, la parole de Dieu. Ensuite, l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie. Et enfin, le nec plus ultra, je dirais, sa présence même en nous. Et nous allons donc axer cet exposé dans ces trois directions. D'abord, prenons conscience que notre Seigneur Jésus-Christ nous nourrit par sa parole, son corps, son sang et sa présence, mais qu'il n'est pas le seul à nous nourrir très concrètement. Bien sûr, tout vient du Père, mais l'Esprit-Saint nous nourrit aussi par ses énergies incréées. Commençons par la parole divine. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais l'organe spirituel de l'homme n'est évidemment pas la bouche qui avale, en tout cas pas seule, ni son estomac qui digère, comme dans la chanson. Mais il est doté d'une autre faculté fondamentale que nous appelons l'oreille ou l'écoute. Et c'est le leitmotiv constant du Premier Testament, « Écoute Israël, Shema Israël ». Et c'est ce que nous entendrons ce soir dans la bouche du prophète Isaïe, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille ». Constamment, constamment, la Bible nous rappelle que cette écoute est fondamentale et c'est notre canal de nourriture essentielle par la parole. Alors cette parole divine, nous allons l'approcher dans le Premier Testament et dans le Nouveau Testament, le Second. Déjà dans le Premier Testament, l'importance vitale de la parole divine est mise en lumière. Et cette parole divine a essentiellement trois fonctions. D'abord, la parole est créatrice. Deuxièmement, la parole guérit. Et troisièmement, elle révèle les pensées divines. Et ces trois fonctions sont indissociables et aussi importantes les unes que les autres. La parole divine est créatrice. Et je dirais qu'on se doute bien que lorsque Dieu parle, ce n'est pas pour ne rien dire. Il ne prononce pas des paroles en l'air comme malheureusement ça nous arrive souvent ou parfois de le faire. Et donc si Dieu parle, ça a une importance fondamentale, capitale, vitale. Et la Bible va insister constamment sur cette réalité, ce que Dieu dit se réalise. Dieu agit par sa parole parce que sa parole est féconde et créatrice. Le terme hébreu dabar, la parole, le verbe, vient d'une racine qui signifie lié, attaché. Et dabar signifie aussi bien la parole ou le verbe, ou le logos, on traduira en grec, que la chose, la réalité, l'action. C'est-à-dire que dans ce mot hébreu, nous trouvons les deux réalités intimement associées et indissociablement associées. Parler, c'est agir. Alors que pour nous, nous pouvons prononcer des paroles en l'air, comme on dit. Nous pouvons parler, et on dit parfois, ah, c'est un beau parleur, mais il n'agit pas. Or, quand Dieu parle, il agit, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Les Hébreux ne seraient pas d'accord avec le proverbe romain qui disait « verba volant, scripta manent », les paroles volent. Eh bien non, les paroles de Dieu volent peut-être, mais en volant, elles agissent, elles réalisent, elles font. Le mot hébreu d'abar, que l'on traduit par parole, c'est une citation ici que vous trouvez dans vos feuilles, possède un éventail de significations plus large que son équivalent français. Pour les gens du Proche-Orient ancien, la parole n'est pas la simple expression verbale d'une pensée ou d'une volonté, mais la réalité elle-même qu'elle désigne. La parole ne se réduit pas à un ensemble de sons articulés, elle est une chose réelle, quoique invisible. La parole constitue un événement. S'il en est ainsi, de la parole humaine, parce que cette citation se rapportait à la parole de manière générale, à plus forte raison de la parole de Dieu, puissance créatrice, puissance en action. Et je vous cite ici quelques extraits de la Bible qui le manifestent. Dès la Genèse, chapitre 1, Elohim dit, la lumière sera et la lumière est. Elohim crie à la lumière, jour. À la ténèbre, il crie, nuit. Et le jour et la nuit apparaissent. C'est la traduction d'André Chouraki. Ou encore, dans un psaume 148, il dit et ils furent faits. Il commanda, ils furent créés. Ou encore, le prophète je ne sais plus me relire. Dans toutes les paroles excellentes qu'avait dites le Seigneur, toutes s'accomplirent. Ou encore, dans le livre des rois, aucune des paroles que le Seigneur avait dites à Moïse n'est restée sans effet. Et ce magnifique passage d'Isaïe que nous lisons à un certain moment de l'année, que vous connaissez tous, « De même que la pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je voulais, et fait réussir mes desseins. » Isaïe 55. Et la parole du Seigneur est présentée comme un guerrier redoutable. Ta parole toute puissante, quittant les cieux et le trône royal, bondit comme un guerrier impitoyable. Et cette parole divine guérit. Déjà dans l'Ancien Testament, on le souligne. Ta parole fait subsister ceux qui croient en toi. Il envoie sa parole pour les guérir, pour les arracher à leur tombeau. Et nous pouvons déjà mettre cette parole qui est extraite du livre de la Sagesse en relation avec celle que nous disons avant la communion. Dis seulement une parole et je serai guéri. La troisième fonction de la parole, c'est la parole qui révèle. C'est une des fonctions essentielles de la parole divine. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne parle pas ou que Dieu ne parle plus. Or, Dieu n'arrête pas de parler à l'homme. Il n'arrête pas de me parler, de vous parler, à chacun d'entre vous, depuis le début, depuis l'origine des temps. Et une des fonctions essentielles de cette parole, c'est de nous révéler quelque chose de nous-mêmes et de la vie divine. Mais encore faut-il être capable de capter la parole, c'est-à-dire de développer cette oreille intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Et on peut s'imaginer que si Dieu parle à l'homme, c'est pour être entendu, et c'est pour être compris, dans la mesure évidemment où nous pouvons comprendre le mystère. Nous parlerons tout à l'heure plus longuement du mystère, parce que, comme disait un poète, tout est mystère. Dieu n'est ni indifférent, ni muet, et il ne cesse de parler à l'homme, l'objet de son amour, pour l'éduquer, l'enseigner, se faire connaître à lui. Et l'Épître aux Hébreux nous le rappelle dès le départ, verset 1 du chapitre 1, « Dieu parla à nos pères et mères, à bien des reprises et de multiples façons. » Relevons au passage, mais nous y reviendrons tout à l'heure plus longuement, que la parole divine dans la Bible des Septante, qui est la Bible traduite en grec, vous savez, à Alexandrie, quelques siècles avant le Christ, la Bible des Septante, donc en grec, traduit le mot parole par le terme grec logos, promis un bel avenir, notamment dans l'évangile de Jean. Je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure, parce que c'est vraiment important de le saisir. Je ferme la parenthèse. Et donc nous voyons que Dieu s'exprime, sort de lui-même. Il se communique par sa parole. Il se communique dans toutes sortes d'ailleurs de théophanies. Rappelons-nous dans l'Ancien Testament, il peut se communiquer dans une brise légère, comme il le fait à Élie. Il peut se communiquer dans un tremblement de terre, des fracas, des éclairs, comme il le fait à Moïse. Mais aussi dans des textes poétiques, comme le Cantique des Cantiques. Et surtout, il se communique par la parole de ses envoyés, les prophètes. parole véhémente s'il en est. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, comme moi, mais je le suppose. C'est que les prophètes sont des gens, on a l'impression qu'ils ont mis le doigt dans une prise électrique. Ils sont hérissés, tout d'un coup saisis, vraiment traversés de fond en comble par un courant extrêmement puissant et dévastateur. Ils ne sont plus eux-mêmes. Prenons par exemple le prophète Jérémie qui se plaint finalement. Il dit « Je parle, je dois clamer, je dois crier à la violence, à la dévastation, car la parole de Dieu est pour moi objet d'opprobre et de raillerie tout le jour. J'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, mais c'était dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans les eaux. » Et le prophète Ézéchiel, qui est saisi par la main de Dieu, vous rappelez peut-être ce passage, la main de Dieu le met debout et le force à parler, et d'abord à manger. « Fils d'homme, mange ce rouleau, puis va parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche. Il me fit manger ce rouleau et me dit, « Fils d'homme, fais manger ton ventre et remplis tes entrailles de la parole divine. » Rarement, je trouve, le lien entre la parole divine et la nourriture n'a été exprimé d'une manière aussi forte, je dirais même violente, presque brutale. C'est d'ailleurs ce que le père Marcel Jousse, que vous connaissez, mendication de la parole, hein, appelle la mendication de la parole, c'est-à-dire la parole divine pénètre dans la bouche, dans l'être, dans le ventre du prophète, remplit ses entrailles, et il doit l'assimiler, c'est-à-dire la faire sienne, devenir chair de sa chair, sang de son sang. C'est-à-dire que la parole ne fait plus qu'une avec le prophète qui en est saisi. D'ailleurs, nous gardons parfois la trace, édulcorée bien sûr, de cela dans une expression populaire qui dit « on boit les paroles de quelqu'un ». Jean Annie, dans son beau livre sur la divine liturgie, nous dit « la parole doit être mangée parce qu'elle doit devenir la chair de notre chair. Nous devons nous laisser investir par elle et par la force de l'esprit. Et il doit se former dans le cœur une parole substantielle par une sorte d'infusion. » Si je prenais une image un peu triviale, on pourrait prendre une tasse de thé, vous voyez, une tasse de thé transparente, et vous plongez le sachet de thé, le sachet de la parole divine, qui se diffuse dans l'eau bouillante. Eh bien, la parole divine investit tout notre être. Et nous buvons, nous mangeons cette parole. Et Mgr Jean de Saint-Denis abonde dans le même sens, bien sûr. Il dit, il ne faut surtout pas prendre la parole divine comme un enseignement extérieur que nous devons analyser, scruter, un objet d'étude, de réflexion. Je vous cite textuellement Mgr Jean. Il faut lire les psaumes sans vouloir les commenter immédiatement. Leur lecture doit se déposer en nous et agir, en transformant l'intérieur. Sinon, les paroles, la parole, n'ont pas le temps de s'enfoncer dans le cœur, d'être mangées, bues. Elles ne sont pas assimilées. L'Écriture sainte n'est plus une nourriture spirituelle, mais plutôt une directive, un maître enseignant de l'extérieur. Non, nous n'avons pas à saisir de suite. Nous devons recevoir le Verbe comme on prend une nourriture. Nous sommes au seuil d'un royaume mystérieux, la nourriture dispensée par l'Écriture sainte. Vous imaginez bien que lorsque la parole, le Verbe, le Logos devient chair, je dirais que c'est un pléonasme de dire que lorsqu'il s'incarne, que la parole divine prend corps, qu'elle acquiert une matérialité, une intensité, une force dont le Premier Testament n'avait finalement qu'une pâle idée, assez lointaine malgré les prophètes. Et bien à ce moment-là, la parole se devient chair, c'est le début de l'évangile de Jean, du prologue de Jean, et le Nouveau Testament est véritablement le livre du Verbe qui devient homme, le livre de la parole faites chair. C'est dire si ce livre du Nouveau Testament est inspiré et rempli de cette parole divine qui résonne. Le Verbe s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Je suppose que ce passage vous dit quelque chose. Nous sommes tellement habitués à entendre cette parole que, à la limite, hélas, ça ne nous fait plus ni chaud ni froid. On dit, oui, la parole divine s'est fait chair. Elle est venue habiter parmi nous. Oui, oui, je l'ai entendu des tas de fois. Mais qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de nous? Est-ce que nous avons encore un déclencheur intérieur sur lequel, telle une grenade, nous pouvons appuyer pour qu'il y ait une explosion intérieure qui nous révèle la force de cette révélation? Le Verbe s'est fait chair. C'est véritablement révolutionnaire. Alphonse avait l'habitude, il avait une expression favorite, il l'a peut-être toujours, le caractère inouï. Vous entendez chez Alphonse, c'est inouï, totalement fou, invraisemblable, inacceptable même. Il est inacceptable que la parole de Dieu devienne homme. On ne se rend plus compte, mais c'est la folie complète. D'ailleurs, saint Paul le dira. C'est inacceptable pour un esprit rationnel et qui, pour ceux qui confinent Dieu dans sa transcendance. Dieu est là, il est bien où il est, nous sommes ici. Et quel est le lien entre nous? Et alors, comme dit le Christ, le sel a perdu sa saveur. Avec quoi le salera-t-on? Demande-t-il. N'avons-nous pas, c'est une vraie question, perdu en chemin la saveur de cet événement bouleversant, de la parole divine devenue chair? Et donc nous allons retrouver, décuplé bien sûr, chez le Verbe incarné, la force vitale de la parole divine, que j'ai déjà souligné dans l'approche de l'Ancien Testament. Parole créatrice, parole qui guérit et qui sauve, et parole qui révèle, et parole, bien entendu, qui nourrit. La parole du Verbe est créatrice. De manière unanime, les pères nous parlent de l'œuvre du Christ comme d'une nouvelle création, car il renouvelle totalement la nature humaine par son incarnation, sa mort, sa résurrection. Et Jésus dit à Nicodème dans ce passage célèbre, Jean chapitre 3, qu'il faut naître à nouveau, renaître, notamment par ces paroles qui sont vibrantes de vérité, de force vitale, qui font vivre et revivre. Et tout le Nouveau Testament, comme l'Ancien d'ailleurs, est rempli de cette parole, et le Christ la répétera plusieurs fois, « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ?» Il ne suffit pas d'écouter, il faut entendre, il faut que la parole descende en nous, qu'elle nous féconde, comme Marie. Et saint Pierre s'écrit, dans un moment de révélation, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et le Christ dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'était déjà la parole puissante du Verbe qui était à l'œuvre dans la Genèse. Par le Verbe du Seigneur, les cieux sont créés, et dans le souffle de sa bouche est toute leur puissance. Tu as parlé, dans le livre de Judith, et tes créatures sont venues à la vie. Personne ne résiste à ta voix. Et c'est pourquoi Jésus, dans la parabole, la magnifique parabole du semeur, compare sa parole à une semence qui est destinée à entrer dans notre terre intérieure, à y porter du fruit, si nous sommes attentifs et réceptifs. C'est le modèle accompli de l'être qui accueille la parole de Dieu en elle, c'est Marie. Je suis la servante du Seigneur, dit-elle, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole, le Verbe, s'incarne en elle. C'est le Verbe lui-même qui prend naissance en Marie. Eh bien, s'il a pris naissance en Marie, il peut aussi prendre naissance en nous. Deuxième aspect de la parole du Verbe, c'est la parole qui guérit. On retrouve avec Jésus cette identité que j'ai évoquée tout à l'heure entre la parole et l'action, le Verbe et la puissance. Il n'y a aucune distance entre les deux. La parole de Jésus est une force spirituelle en action, C'est une sève qui traverse les fibres de l'être, qui entre dans la matière, qui entre dans le corps humain, dans son âme, dans son esprit. En tout cas, dans le corps, l'âme et l'esprit de celui qui accueille la parole avec confiance. Les évangiles nous rapportent beaucoup de récits de guérison par la parole de Jésus. Comme ce centurion qui dit « Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Mais vous imaginez, on a l'habitude d'entendre ce genre de texte et on dit « Ah oui, bah oui, on connaît. » Mais vous imaginez la scène. C'est la foi de cet homme, « Seigneur, dis une seule parole. » Et mon serviteur, inguérissable, sera guéri. Et Jésus s'étonne et s'émerveille de la foi de cet homme romain, de ce soldat, qui s'adresse à lui, alors qu'il n'est pas, il ne fait pas partie du peuple juif. Va, lui dit Jésus, ton fils est vivant. C'est un autre miracle, c'est le fils. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Ou encore cette parole forte de Jésus, lève-toi. Et marche. Eh bien, cette parole, on pourrait l'entendre tous les matins résonner en nous. Pas simplement pour se lever de notre lit de la nuit, mais lève-toi et marche. Voilà la parole que nous dit le Christ constamment. Autre fonction essentielle de la parole du Christ, c'est la parole qui révèle. Les prophètes ont annoncé de manière voilée notre relation avec Dieu et la venue du Verbe. Mais le Verbe lui-même, venu dans la chair, va nous apporter une révélation totale, plénière, qui n'en reste pas moins mystérieuse. Vous rappelez peut-être, Saint Maxime le Confesseur disait que dans son apparition, dans sa manifestation même dans la chair, le Christ apparaissait comme plus mystérieux encore. C'est incompréhensible ce mystère de l'incarnation. Et donc, Jésus va dire, dans notamment Matthieu 13, « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. » Et aussi, il dit à ses apôtres, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. » Cette parole ne s'adresse pas qu'aux évangélistes, elle s'adresse à nous. Et quelle est cette révélation nouvelle apportée par le Verbe? Nous pouvons y mettre des mots. Ce sont les deux mystères qui fondent notre foi chrétienne. D'abord le mystère de l'incarnation et ensuite le mystère de la Trinité. Le mystère de l'incarnation, le Christ n'arrête pas de nous rappeler l'amour du Père pour nous, et que le Père aime l'homme d'un tel amour qu'il lui envoie son Fils unique, qui sera mis à mort pour nous, qui va se donner totalement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, mystère de l'incarnation. Et le Christ aussi nous révèle que non seulement le Dieu est Père, comme le présentait le peuple juif, mais que Dieu est Père, que Dieu est Fils, et que Dieu est Esprit Saint. C'est lui qui nous révèle la divine Trinité. Et donc, nous pouvons voir que les limites de la première révélation contenue dans le Premier Testament éclatent véritablement sous la pression irrésistible de la parole du Verbe, du Logos. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ces paroles sont tellement insupportables. Rappelez-vous, de nombreuses fois où les juifs les plus pieux sont tout à fait révoltés, scandalisés par les paroles du Christ, et notamment au moment de sa passion, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ». Ils répondirent « Il mérite la mort ». Pourquoi ? Parce que le Christ leur apparaît comme se révélant égal à Dieu. Et c'est totalement inacceptable que le Dieu transcendant, créateur, honoré, vénéré par le peuple juif, soit cet homme souffrant qui est devant eux. C'est absolument inacceptable. Et parce que le Verbe divin nous apporte une révélation plénière, totale, parce qu'il parle au nom du Père dans le souffle puissant de l'Esprit, ses paroles, comme il le dit lui-même, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Autre fonction de la parole du Christ, c'est cette parole, et nous rejoignons ici plus précisément notre sujet, notre demande de la parole substantielle, du pain substantiel. Les paroles du Verbe sont évidemment une vraie nourriture. Nourriture qui guérisse, qui fortifie, qui structure l'être humain dans sa profondeur. Nous communions à ses paroles comme nous communions à son corps et à son sang, notamment dans la lecture de la Bible, dans la liturgie eucharistique. Les paroles du Verbe sont donc une nourriture essentielle. Nous mangeons sa chair, son sang, dans la divine Eucharistie, mais aussi dans la lecture des Écritures, nous dit saint Jérôme. Et Paul Evdokimov écrit ceci. On peut dire que pour les pères, la Bible est le Christ. La Bible est le Christ. Car chacune de ses paroles nous conduit vers celui qui les a prononcées et nous met en sa présence. Et ceci qui est encore plus fort, semble-t-il, on consomme eucharistiquement, donc on mange eucharistiquement, la parole mystérieusement rompue en vue de la communion avec le Christ. On consomme de manière eucharistique la parole mystérieusement rompue. Il y a donc la fraction du pain, mais aussi la fraction de la parole pour que nous l'assimilions, que nous la mangions comme une nourriture substantielle. Et d'ailleurs, vous le savez, la liturgie chrétienne comprend deux parties distinctes et complémentaires. La première, c'est la liturgie de la parole, et la seconde, la liturgie eucharistique. Et ces deux parties forment un tout indissociable. Comme vient de le rappeler Paul Evdokimov, il n'est pas moins important de communier à sa parole qu'à son corps et à son sang dans l'Eucharistie. La première partie de la liturgie, je vous lis ici un extrait de Jean Annie, la première partie de la liturgie est en réalité un dialogue entre l'homme et Dieu. L'homme en prière, qui loue le Seigneur et lui demande de lui parler, de l'enseigner, de l'éclairer. Et Dieu qui lui répond par les paroles de la Bible. Cette partie de la messe est un magnifique exemple du dialogue entre l'homme et Dieu. Elle est faite en effet des prières de louange, d'intercession, des fidèles qui s'adressent à Dieu et de la réponse de Dieu qui leur vient par la lecture de la Bible, des évangiles, des épîtres apostoliques. Cette lecture des textes sacrés qui constitue le temps fort et le centre de cette partie de la messe, c'est la voix même du Fils de Dieu qui retentit une nouvelle fois aux oreilles des chrétiens. Est-ce que nous avons conscience, quand nous écoutons de manière, et je l'avoue pour moi-même, parfois très discrète, la lecture des évangiles, ou enfin, les évangiles, je suis distrait parce que je les chante, mais la lecture des épîtres ou bien des paroles du prêtre, est-ce que nous avons conscience que ce sont des paroles issues du Verbe que nous entendons? Et toute parole humaine, toute parole sacrée, pas évidemment les bêtises que nous pouvons raconter parfois, mais toute parole sacrée est une parole venant du Verbe, car nous sommes des petits logos, nous sommes porteurs de la parole. Et c'est pourquoi dans la liturgie, ces lectures sont faites d'ailleurs de manière solennelle et chantée dans l'Église orthodoxe. Car il s'agit de textes sacrés qui expriment la pensée divine. Et on ne les lit pas n'importe comment. C'est un lecteur en aube ou une femme avec un voile qui les lit de manière impersonnelle, objective, sachant que la parole traverse le lecteur et ne vient pas de lui. Donc nous excluons tout lyrisme personnel, tout état d'âme, qui n'a rien à faire à ce moment-là. C'est pourquoi aussi le livre liturgique qui contient l'Évangile est traité non pas comme un livre ordinaire, mais avec vénération. Le livre, c'est le Verbe, comme l'autel, c'est le Verbe. le livre d'évangile est placé donc sur l'autel après avoir été entré et montré solennellement aux fidèles dans l'entrée, et puis à nouveau montré solennellement par le diacre qui proclame Agios Sanctus Saint. Et c'est le livre, c'est le Verbe lui-même qui est porté jusqu'à l'ambon où se fera la lecture de l'évangile, qui est encensé aussi. Tous ces rites ne sont pas faits pour eux-mêmes. Je vous reparlais tout à l'heure brièvement du danger du ritualisme. Mais ces rites ont un sens profond. C'est que nous sommes en présence d'un sacrement de la parole. Et pas simplement d'une parole qui passe comme ça, comme parmi d'autres, comme le vent passe dans le feuillage des arbres. C'est un véritable sacrement, c'est-à-dire un pont, un lien étroit, profond, réel, entre Dieu et l'homme. Jean a mis toujours, la lecture solennelle de l'Écriture est réellement un sacrement de la parole. La parole qui parle dans la liturgie est cette parole par qui le monde a été créé, le Verbe, et par qui le monde doit être recréé, ce qui est le but même du Saint-Sacrifice comme restauration du monde originel. Aussi, la proclamation de l'Écriture à la messe est-elle tout autre chose qu'une lecture quelconque, aussi intéressante soit-elle? Toute la messe est finalement une liturgie de la parole. Toute la messe est une liturgie de la parole. La liturgie d'une seule parole, avec un grand P, celle qui a parlé à l'origine du monde, et qui à la fin des temps, et à la fin des temps, qui a parlé comme parole faite chair, et qui à ce moment précis de la liturgie, parle à nouveau à l'homme et se donne à lui en nourriture. Pour conclure cette approche du pain substantiel par la parole divine, je ne sais plus à quelle heure je dois m'arrêter, retenons que lorsque nous demandons au Père de nous donner le pain substantiel, en dehors de tout ce que nous avons dit déjà ce matin, du pain matériel, du pain du corps, du pain de l'âme, de cette nourriture à travers la nature magnifique qui est un don de Dieu, nous demandons aussi de nous donner la parole, de nous donner le Verbe. Et le Verbe se donne à nous à travers les paroles inspirées des évangiles, des épîtres et des commentaires des pères aussi. La parole de vie est comme la chair du Fils de Dieu, nous dit Tertullien. Puisqu'il me reste un bon quart d'heure et que vous n'avez pas l'air de trop vous endormir, ça va, vous tenez le coup? Je vais commencer la dernière partie qui est un peu plus longue que celle-ci, donc je vais déjà l'entamer. Il faut que je retrouve la bonne. Voilà. Donc, nous abordons maintenant l'avant-dernière partie de ce partage. Nous sommes toujours dans le pain céleste, le pain substantiel, et nous abordons maintenant le mystère de l'Eucharistie. Et pour rendre la chose un peu plus vivante, j'ai imaginé un petit personnage qui vient de l'espace. Appelons-le un martien ou un lunien, comme vous voulez. Il vient de l'espace et il se fait qu'il est un peu anthropologue à ces heures. Et heureusement, il sait lire le langage humain. Et il découvre une Bible en débarquant de sa soucoupe et il lit ces paroles du Christ qu'il ne connaît absolument pas. Il n'a jamais entendu parler ni du Christ, ni de la Trinité, ni de l'Évangile. Il sait simplement que le Christ est un homme qui a vécu à un moment donné. Et voici ce que dit le Christ. « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. » On imagine sans peine l'immense perplexité de cet anthropologue venu de l'espace devant un homme qui demande à ses amis de manger sa chair, de boire son sang. Est-ce qu'il aurait mal lu? Il poursuit sa lecture et tombe dans le chapitre 6 de Saint Jean sur quelque chose qui le confirme tout à fait dans son effroi. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et, c'est ici qu'il dresse à nouveau les cheveux sur la tête, le pain que je donnerai, c'est ma chair. En vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Nous imaginons notre petit anthropologue lunaire plongé dans un grand embarras, un abîme d'incompréhension. Alors, il tombe sur un livre de Jean-Yves Leloup, une sorte de routard spirituel sur le Notre Père, et il va trouver une explication un peu rassurante de ses paroles. Écoutez, on connaît le proverbe zen qui dit « Si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le. Et si vous rencontrez le Christ, ne le tuez pas. » Il dit entre parenthèses « Cela a déjà été fait. Mangez-le. » C'est lui-même qui nous le demande. « Prenez et mangez. » Ceci est mon corps. C'est-à-dire, et c'est ça la phrase qui va rassurer notre anthropologue, assimiler mon enseignement, mastiquer, digérer mes paroles les plus inacceptables au premier degré, tirez-en le sucre qui fortifiera, éclairera et guidera votre vie. Ah, ouf, c'est un sens purement symbolique, se dit notre petit lunaire ou notre petit martien, rassuré. Eh bien, je trouve que c'est ce texte de Jean-Yves Leloup qui écrit des choses merveilleuses édulcore quand même pas mal le sacrement de l'Eucharistie. Et le réalisme des eucharistiques des pères est total, nous dit Olivier Clément. La chair du Christ est vraiment une nourriture, son sang est vraiment un breuvage, comme il le dit lui-même dans l'évangile de Jean. Et comment donc comprendre cette chose tout à fait étonnante et à la mi a priori choquante. Comment aller plus loin dans l'intelligence de cette pratique sacramentelle? Eh bien, tout d'abord, nous devons nous replacer dans quelque chose qui nous dépasse totalement et que nous appelons le mystère. Nous avons déjà évoqué tout à l'heure le mystère du crier, nous avons évoqué aussi le mystère de l'incarnation, le mystère de la divine Trinité, et nous sommes en présence d'un nouveau mystère qui nous dépasse complètement. Le mystère sacramentel du corps et du sang du Christ, offert pour la vie du monde. Le mystère du pain substantiel, de la nourriture suressentielle, il y a là pourtant un réalisme étonnant qu'il serait bien dommage de réduire au pur symbole. Parce que si on réduit ça à un symbole, nous vidons cette réalité de sa charge puissante, vitale. Alors je vous invite à observer maintenant un tout petit temps de silence où nous entrons en nous-mêmes et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que c'est pour moi que ce mystère de l'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est que ce sacrement? Est-ce quelque chose de symbolique? Est-ce que c'est une manière de parler? Ou est-ce que nous entrons dans quelque chose qui nous dépasse réellement et nous buvons le sang et nous mangeons la chair même du Christ? Voilà, petit silence avant la suite. Vous savez sans doute que le terme de mystère vient du grec mysterion, qui signifie ce qui est caché à la compréhension immédiate. Mais il signifie aussi le dessein, la volonté secrète de l'homme ou de Dieu. Et donc le mystère n'est pas fait pour être compris au sens habituel du terme, mais pour être vécu. Tous les mystères sont faits pour être vécus, c'est-à-dire expérimentés. C'est-à-dire encore pour éveiller notre conscience à un autre niveau de réalité. Vous dites sans doute, bon, c'est facile de parler du mystère, on aimerait bien en savoir plus quand même, mais on va y venir, vous n'en faites pas, enfin, dans la mesure où nous pouvons nous approcher justement du mystère et de cette cette chose incompréhensible et qui pourtant nous nourrit en profondeur. Mais pour cela, il faut que nous quittions la pensée habituelle, la pensée binaire, rationaliste, et pour nous aventurer dans une terre inconnue qui à la fois nous fascine et nous attire. Cela ne veut pas dire donc que le mystère nous soit fermé et incompréhensible, pas du tout. Bien au contraire, le mystère est quelque chose qui ouvre et qui ne ferme pas. Il ouvre de nouvelles portes, de nouvelles fenêtres. Le mystère, c'est une invitation à un voyage, à quitter les rivages connus de ce que nous avons appris depuis notre enfance et de notre manière habituelle de raisonner. Maintenant, allons un peu plus loin. Comment aborder le mystère de l'Eucharistie et comment faire ce lien avec le pain substantiel que nous demandons au Père? Eh bien, au risque de vous décevoir, je persiste dans le mystère avec le poète Emerson. Je ne sais pas si vous connaissez le poète Ralph Walton, je crois. Emerson, en anglais. Il dit « Tout est mystère ». Et la clé d'un mystère, ah, je sais qu'il va nous donner une clé, est un autre mystère. Si nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, si nous nous fions à notre intuition, ici je vous invite à passer à un autre plan que le plan du raisonnement, à notre sens artistique, à notre petit radar spirituel, à notre petite voix intérieure, si nous regardons avec le cœur, comme le dit le petit prince dans Saint-Exupéry, sans nous satisfaire de l'expérience, de l'apparence extérieure des êtres et des choses, par exemple de leur aspect mécanique, comment est-ce que ça fonctionne, ou bien de leur utilité immédiate, à quoi ça sert, de leurs caractéristiques physiques, c'est grand, c'est petit, c'est gros, c'est moyen, c'est lourd, c'est mou. Si nous allons donc au-delà de l'extériorité, des choses, je ne vous parle pas ici de l'Eucharistie, de la moindre chose, du moindre objet, nous prenons conscience que le réel, la réalité est voilée. Nous ne connaissons pas la réalité. La réalité profonde de toute chose, et forcément, a fortiori, de tout être, nous échappe, se dérobe sans cesse. Est-ce que nous savons qui nous sommes dans notre profondeur? Est-ce que nous connaissons notre conjoint, notre ami, notre frère, notre sœur, dans sa profondeur? Le mystère de notre personne. Nous sommes donc, nous les êtres humains, devant un océan de mystères. Même les choses les plus simples, les choses créées, sont mystérieuses. Et elles sont autres que ce qu'elles semblent être dans leur simplicité première. Nous pouvons dire que le visible, tout ce qui est visible, n'est que la face apparente d'une réalité invisible. J'ai trouvé un texte dans quelque chose qu'on ne lirait pas a priori. Écoutez bien le titre de cette chose-là, c'est vraiment bizarre. Lettre numéro 6 d'un auteur anonyme, peut-être unanime, dans la discussion amicale sur l'établissement et la doctrine de l'Église anglicane, début du 19e siècle. On se dit, ça c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Eh bien, écoutez ce qu'il nous dit du mystère, pas mal du tout. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous et nous n'y comprenons rien, absolument rien. Fixez dans le monde tel objet qu'il vous plaira, depuis la plus petite des graines jusqu'au cèdre majestueux, depuis l'insecte imperceptible qui se fatiguerait à parcourir la tête d'une épingle, jusqu'à l'animal le plus monstrueux, depuis l'atome jusqu'au globe, c'est-à-dire dans le langage de l'époque, des astres, qui roulent sur nos têtes dans un espace dont la profondeur est incommensurable, tout est mystère pour nous, tout. Et la goutte d'eau que verse la nuée, et le grain d'herbe que nous foulons sous nos pas, et le grain de sable que le vent emporte, tout est inexplicable. Tout confond, égare nos recherches, tout est mystère. Et le plus grand sans doute pour l'homme est l'homme lui-même. Beau texte. On n'aurait pas cru a priori. cet émerveillement de celui qui regarde tout d'un œil neuf, que je vous invite à chausser aujourd'hui, et qui tranche avec bonheur avec le courant triomphaliste scientiste du XIXe siècle et du XXe siècle aussi, en grande partie, est partagé actuellement, deux siècles plus tard, donc après le texte que je viens de vous lire, par les physiciens actuels. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous sont intéressés à la physique quantique et toutes ces choses invraisemblables, incroyables, que les physiciens constatent. Ils ne sont pas en train de divaguer, ils constatent dans leurs expériences que le réel, comme je vous le disais tout à l'heure, est voilé, que même la matière nous échappe. Quelques exemples, et on terminera là-dessus avant de poursuivre le dernier exposé tout à l'heure. La matière est impossible à saisir dans sa réalité parce que tantôt elle se présente comme une onde, tantôt comme une particule ou un ensemble de particules. La matière a une capacité incompréhensible à s'auto-organiser. On part du chaos et on arrive à des structures d'ordre, comme les cristaux par exemple. S'auto-organiser, s'auto-structurer. On passe de structures simples à des structures complexes, sans qu'on le comprenne le moins du monde le processus de la montée vers la complexité. Et les propriétés émergentes, c'est-à-dire les propriétés du tout, sont différentes des propriétés des parties. Donc le tout n'est pas la somme des parties dans la matière. On parle aussi d'antimatière. Il y a la matière que l'on connaît et l'antimatière. Et les particules de matière et d'antimatière sont produites en même temps, mais s'annihilent les unes les autres. Et Dieu merci pour nous, la matière prédomine sur l'antimatière. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. On parle aussi maintenant de matière noire et d'énergie noire, c'est-à-dire d'une matière absolument inconnue, qui, tenez-vous bien, occupe 96% de l'espace. Donc la matière connue, notre matière, c'est 4% de la matière totale de l'univers. On ne sait pas ce qu'est le reste. On parle aussi d'émergence de la matière à partir du vide.
Comment est-ce qu'on peut mesurer si...
Ça, je ne saurais pas te dire scientifiquement. Mais bon, les physiciens sont assez d'accord sur cette proportion. 4, 96, parfois on dit 3, 97 ou 5, 95. Mais bon, c'est pour nous montrer que l'immensité de la matière, la plus grande immensité, nous est totalement inconnue. Et je ne parle pas ici de la matière des particules qu'on analyse en laboratoire au CERN et ailleurs. Alors nous parlons aussi, les physiciens constatent que à partir du vide dans lequel apparemment il n'y a rien que de l'énergie, des corpuscules apparaissent tout seuls. Et ces corpuscules ou particules disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Pourquoi ? On parle aussi de quelque chose de tout à fait étonnant que vous avez peut-être entendu. C'est la non-séparabilité des particules. Par exemple, deux particules A et B qui ont été corrélées, c'est-à-dire reliées à un certain moment, qu'on parvient à dissocier et on les met à distance de plusieurs kilomètres l'une de l'autre. On agit sur une particule A et immédiatement, à l'instant même, la particule B a le même effet, ressent ce qu'on fait à la particule A, ce qui montre que les deux particules, malgré des kilomètres de distance, et leur caractère infinitésimal reste totalement relié entre elles. Principe de non-séparabilité qu'on appelle aussi l'intrication quantique. On parle aussi actuellement, vous savez qu'on a abandonné depuis un certain temps, on nous enseignait à l'école qu'il y avait une petite boule au centre qui était le noyau d'atomes et que les électrons tournent autour. Eh bien ce modèle, qu'on appelait de Rutherford du nom du physicien, est vraiment dépassé et maintenant on s'oriente vers une autre théorie qu'on appelle la théorie des cordes. Ce qui veut dire en gros, je ne suis pas du tout spécialisé, mais la théorie des cordes voit dans la matière non plus des particules ponctuelles, comme des petits points, comme des petits grains si vous voulez, mais des cordes vibratoires, c'est-à-dire des sortes d'élastiques d'énergie en vibration constante, les unes avec les autres. Alors on parle aussi de principe d'incertitude ou d'indétermination. C'est-à-dire qu'on ne peut à la fois déterminer la vitesse d'une particule et sa position. Il faut choisir ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ce qui veut dire que ce principe d'incertitude, d'indétermination, constitue un champ, mais vraiment un mur qu'on ne peut pas franchir pour connaître tout de la matière et de la matière observable. Je ne vous parle pas de la matière noire dont on ne connaît même pas la composition. On parle aussi, très curieusement, de dimensions cachées de l'espace. Vous savez, certains physiciens, et de manière très sérieuse, il y en a beaucoup qui en parlent, disent que notre espace-temps est un des espaces-temps possibles, mais que l'espace est replié sur lui-même. Et il y a un nombre de dimensions, c'est que certains parlent d'espace chiffonné, c'est comme une boule de papier, et il y aurait un espace qui est la première fraction ici, un second espace là, etc. Une autre chose, et ça c'est Einstein qui l'a mis en valeur, c'est la liaison profonde qu'il y a entre l'espace et le temps, et l'énergie. On parle aussi, et ça c'est encore quelque chose qui semble être une divagation, mais qui montre à quel point nous sommes ignorants des réalités mêmes de la matière qui nous entoure, de multivers. Vous savez, les multivers, ce n'est pas pour aller à la pêche à la ligne, c'est multi-univers. Il y a notre univers connu, et il y a de multiples autres univers. Vous imaginez de multiples univers dont le nôtre ne serait qu'un parmi des millions ou des milliards d'autres. Et donc nous sommes ici, non pas dans le domaine de la divagation, mais dans le domaine scientifique actuel des physiciens et des astrophysiciens. Alors, à supposer même que toutes ces questions que je vous ai rapidement évoquées soient résolues un jour, à condition qu'on puisse les résoudre, et il est étonnant qu'on puisse un jour les résoudre, parce que le principe d'indétermination dont je vous ai parlé constitue une espèce de mur infranchissable. Et aussi ce qu'on appelle le théorème de Gödel, c'est-à-dire le théorème d'incomplétude. Gödel, un mathématicien du début du XXe siècle, a dit qu'il était impossible de vérifier la cohérence d'un système par le système lui-même. Donc le système est toujours forcément incomplet. Et on ne peut faire le tour de la matière parce qu'on ne pourra jamais faire le tour. C'est l'incomplétude même de notre recherche, de nos axiomes et de nos démonstrations. Bon, passons à autre chose. À deux questions finalement fondamentales, supposons que toutes ces questions soient résolues un jour, et elles ne le seront pas, je pense, on pourrait toujours quand même se poser la question fondamentale posée il y a déjà 300 ans par le philosophe Leibniz: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qui peut répondre à cette question dans la salle? Ou alors, ramenons la question à quelque chose d'un peu plus proche, si on peut dire, de nous: qu'y a-t-il avant le Big Bang? Qui peut répondre? Eh bien, c'est une réponse que nous n'aurons sans doute jamais, parce que nous ne pouvons remonter au-delà d'une certaine fraction de seconde, 10 exposant 44 secondes, moins 44 secondes. C'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Planck, c'est pas un planqué de l'armée, c'est un physicien. Eh bien, au-delà ou en deçà de ce temps, 10 exposant moins 44 secondes, un temps infinitésimal, il est impossible de remonter. Donc nous ne savons pas ce qui se passe, et nous ne le saurons sans doute jamais, avant ce fameux Big Bang, où la matière, l'espace et le temps apparaissent tous ensemble, en même temps, je puis dire. Bref, les physiciens sont arrivés à ce constat qu'il est impossible de connaître notre réalité physique et la matière dont nous sommes faits et qui nous entoure. C'est étonnant, hein? Alors, certains passent de la physique à la métaphysique, comme par exemple ce physicien collaborateur de Einstein, Banesh Hoffman, qui a écrit l'étrange histoire des quantas, qui dit, écoutez bien, on ne croirait pas que c'est un scientifique qui parle. Qu'est-ce que cette essence mystique, la matière? Essence mystique, la matière qui existe en nous et autour de nous, et qui revêt tant de formes extraordinaires, qui est à la fois le maître et le serviteur de l'esprit, et qui tient dans la hiérarchie de l'univers un rang éminent en tant que premier instrument de la création divine. Ce n'est pas un théologien, c'est un physicien. Donc les physiciens, certains bloquent des quatre fers, si vous voulez, disent, ben voilà, on ne connaît pas, et on connaîtra un jour le réel. Il y en a encore, c'est l'école des réalistes qui pense que le réel peut être connu. Mais de plus en plus de scientifiques pensent que le réel ne peut pas être connu. Même la matière ne peut pas être connue. Et je termine par une autre citation de Michel Heller, qui est un physicien et un astrophysicien, et qui pose la bonne question. Qu'apporte à la religion, on dirait plutôt à la spiritualité, la science contemporaine? Je suis d'avis qu'elle nous rend plus fortement que jamais sensibles au mystère. Dans les sciences, nous rencontrons le mystère à chaque pas. Seul un scientifique à courte vue contesterait qu'il est entouré de mystères de tous les côtés. De tels mystères n'annoncent-ils pas un mystère plus grand? Est-ce que ce qui dépasse, transcende les frontières actuelles de la science ne pointe pas vers la transcendance dans le sens plein du terme? Et ce sont des propos d'un scientifique. Alors je continuerai tout à l'heure sur cette lancée-là. Et nous nous approchons quand même, malgré tout, de ce mystère de la matière transfigurée dans l'Eucharistie. Voilà.